France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. La revendication est tombée au Sri Lanka. Le groupe État islamique dit être derrière les attaques sanglantes de ce dimanche dans des églises et des hôtels. Elles ont tué plus de 359 personnes et fait près de 500 blessés. A priori pensé comme une vengeance après le massacre dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande le mois dernier. 37 personnes ont été mises à mort hier en Arabie Saoudite. La majorité des suppliciés sont des chiites, selon Amnesty International, qui dénonce ces exécutions. L'offensive judiciaire contre les grands patrons se poursuit en Algérie. Le PDG du géant algérien des hydrocarbures a été limogé hier. Un peu plus tôt, la première fortune du pays, Issa Drebrab, a été placée en détention provisoire. Hier, une nouvelle manifestation d'étudiants a eu lieu à Alger pour demander une Algérie nouvelle débarrassée de la corruption. Il y aura bien un procès Fillon. Les juges du pôle financier de Paris renvoient l'ancien Premier ministre et son épouse devant le tribunal correctionnel. Ils devront répondre de détournement de fonds public, abus de biens sociaux, complicité et recel. Mais ce n'est pas ça que retient l'ancien juge d'instruction Hervé Léman.
Comment la justice a fonctionné dans cette affaire, en pleine élection présidentielle, avec quelques magistrats qui ont décidé, par l'accélération de la procédure, de mettre hors d'état de gagner le candidat favori de l'opposition? C'est une vraie question dans une démocratie.
Les détails dans le journal de 6h30. Il assure que rien n'était à lui. Un pompier du Val d'Oise, soupçonné d'appartenir au Black Bloc, interpellé samedi pendant la manifestation des Gilets jaunes avec des cocktails Molotov et des feux d'artifice, a été condamné hier. 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Ils veulent être rapatriés en France, c'est non. Le Conseil d'État rejette en appel la demande d'épouses et d'enfants de djihadistes retenus dans des camps contrôlés par les Kurdes en Syrie.
Les éditions Radio France présentent « Histoire de l'alimentation » de Jacques Attali. Que mangeaient les empereurs romains et les rois de France? Et que mangeons-nous dans 100 ans? Comment s'expliquent les interdits alimentaires? Qui mange des insectes? Comment le capitalisme a-t-il détruit les repas de famille? Ce livre passionnant nous rappelle aussi l'importance du plaisir, gustatif et social, en lien direct avec la préservation de la planète. « Histoire de l'alimentation » de Jacques Attali, un livre France Culture.
Et à 6h02 sur France Culture, c'est le réveil culturel Toufik Hakem.
Le réveil culturel Toufik Hakem.
Et tous les mercredis, c'est cinéma au programme du Réveil Culturel. Bonjour tout le monde, merci de nous écouter tôt à la radio ou en différé quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Mon invité aujourd'hui est Audrey Diwan. Ce mercredi 24 avril est une journée particulière pour elle puisqu'aujourd'hui sort son premier long métrage en tant que réalisatrice. Mais vous êtes fou, tel est le titre de ce drame contemporain avec Céline Salette et Pio Marmaille dans les rôles principaux, un coup de cœur partagé avec mon camarade partenaire du Figaroscope, Olivier Delcroix, également présent avec nous ce matin.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Qui l'accompagne?
Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté. Où la PJ y passe 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Bonjour Audrey Diwan.
Bonjour.
Alors, mais vous êtes fou, renvoie bien, c'est le titre de votre film, hein, premier long métrage en tant que réalisatrice. Alors, le titre renvoie bien à la chanson de Benny B, de notre folle jeunesse des années 90, mais ce titre peut être trompeur. Comme l'harmonie qui semble être de mise au début du film, quand on fait la connaissance de cette famille modèle d'aujourd'hui, un jeune couple, Pio Marmaille et Céline Salette, avec ses deux filles charmantes. J'ai pas envie de spoiler le film, mais disons que secrètement, le mari, le père, donc le père modèle, a un sérieux problème d'addiction qui va être à l'origine d'un drame familial. Et vous dites que c'est tiré d'un fait divers.
Oui, en fait, l'histoire du film a commencé comme ça, le jour où j'ai fait cette rencontre étrange, en fait, une rencontre qui m'a réellement marquée avec la femme dont c'est l'histoire. Je l'ai rencontrée par le biais d'une amie. On s'est retrouvées toutes les deux dans un parc et elle s'est livrée comme peut-être on se livre surtout aux gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, elle était au milieu de ce drame. Une semaine avant, elle avait ce qu'elle appelle elle-même une vie normale. Et puis au moment où je l'ai rencontrée, on lui avait retiré la garde de ses enfants. Toute la famille avait été contaminée. Elle avait découvert que son conjoint avait une addiction. Et elle était à la fois sidérée et en même temps, quand elle parlait de cet homme, je sentais et je percevais encore l'amour qu'elle avait pour lui et l'envie de le comprendre. Donc je trouve qu'au confluent de ces deux sentiments-là, il y a quelque chose qui se produisait d'assez fort.
Et vous, quand vous décidez de mettre en scène ce film, qui est votre premier film, Audrey Diwan, c'est beaucoup plus pour raconter une histoire de double vie ou d'un dérapage, pour filmer les addictions aux drogues, pour filmer le manque
Non, pas du tout en fait. Pour moi, l'addiction c'est vraiment une trame de fond. Et en revanche, je vous dis double vie. Et oui, j'avais envie que cette drogue agisse un peu et tienne la place d'une maîtresse en quelque sorte. Il sait que résolument cette drogue risque de mettre en péril tout ce qu'il a de plus cher, tout ce qu'il a construit. Et en même temps, il peut pas s'empêcher d'y retourner un peu comme une pulsion. Et j'avais envie peut-être de réinterroger la triangulaire amoureuse, vous voyez. Et de voir ce qui se produit sur un couple au moment où la confiance se rompt, d'interroger plutôt l'idée du couple aujourd'hui.
Olivier Delcroix, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous avez vu ce film, Mais vous êtes fou, donc premier film d'Audrey Diwan.
Oui, alors j'ai vu ce film, j'en ai été assez marqué, presque j'allais dire perturbé, sans doute parce que je m'identifie énormément au héros. Du film.
Vous avez une addiction que vous cachez à votre femme et à vos enfants, Olivier Delcroix,
mais
et vous osez le dire à la radio de bon matin.
Quel courage,
n'est-ce pas? Non, mais parce qu'effectivement, c'est une vie de couple, c'est un couple et deux enfants en bas âge, et tout d'un coup, tout s'effondre de manière assez tragique. Tout est fait en sobriété, tout est fait un peu à la manière d'un polar. Je veux dire, il y a pas une once de gras là-dedans. Hein. C'est filmé au cutter. Je me suis complètement identifié. Ça m'a énormément perturbé. Ce film m'a énormément perturbé. Et en même temps, voilà, j'étais au bord des larmes à plusieurs reprises. C'est un film qui m'a marqué, qui m'a touché, qui me travaille. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez sidérant ce qui se passe.
Elle respire plus.
Elle est boulante, appelle l'ambulance.
On a fait une batterie d'examen, des analyses de sang, un scanner.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-nous.
On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme.
Quoi? Mais il y a forcément une erreur.
Il n'y a pas d'erreur.
C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école?
Je
travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame.
Quoi?
C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux.
Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je vais voir mes enfants!
C'est moi.
C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Et depuis quand?
Des années.
Non!
Il sort aujourd'hui votre film, Audrey Diwan, Mais vous êtes fou. D'ailleurs, ce titre qui renvoie à une chanson, il est assez trompeur. Il appelle à la comédie, à la légèreté, et pourtant, non.
Mais peut-être que c'était un peu ce que je cherchais. J'aime bien, en tout cas, tenter d'échapper aux étiquettes. Et déjà, ce film, en l'écrivant avec Marcia Romano, avec ma co-scénariste, on essayait un peu d'hybrider les genres, vous voyez. C'est-à-dire à la fois de décrire les contours d'un drame amoureux, et puis comme ça, de le laisser être traversé par des notions qui sont plus du genre, du thriller... Essayer de faire un thriller intime. Et puis, parti dans cette direction-là, je me disais, mais dans ces cas-là, ce serait dommage que le titre enferme le film dans un genre ou dans un autre. Et mais vous êtes fous, j'avais le sentiment que ça parlait d'eux ensemble et qu'il y avait une forme d'élan que j'avais envie de transmettre.
Sérieux, monsieur Clémenti?
Je les ai pas drogués.
Destitution des droits parentaux, prison ferme, alors on leur dit quoi?
Il faut qu'on trouve l'explication, c'est peut-être passé par l'air.
Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari.
Ouais, il faut qu'on sépare aussi ça.
Ouais, juste un truc. Tu me crois?
On nous demande du
depuis des années. Non plus, j'ai rien vu.
Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles.
Pour nous, c'est comme s'il était mort.
Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner?
Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas.
Comment situeriez-vous le couple de votre film, Audrey Diwan, Mais vous êtes fou?
Alors, c'est marrant que vous me posiez la question parce que ça a été un vrai point de réflexion. En fait, on a essayé avec toute l'équipe, puisque ça fait appel aux costumes, aux décors, de montrer ce qu'est la middle class en France. Et c'est intéressant parce que c'est une définition qui semble très claire aux États-Unis, au cinéma. Et en France, c'est beaucoup plus flou. On s'est rendu compte que il y avait assez peu de catégories intermédiaires et que c'était plus difficile de les faire naître dans l'imaginaire, donc des gens en difficulté ou des gens très riches, et que essayer de trouver la middle class, peut-être parce qu'elle est un peu en péril et en disparition aujourd'hui, mais c'était un peu difficile.
Olivier Delcroix?
Oui, ce que je note aussi dans le film, qui est quand même assez court et ce qui est assez remarquable, il est très ramassé, très elliptique, il va à l'essentiel, et en même temps, il y a de temps en temps des envolées, parce que effectivement, Audrey Diwan, elle filme l'amour entre un couple jeune, un homme qui s'est perdu dans une addiction, qui va essayer de remonter la pente, parce que ses deux filles l'attendent au bout du chemin, et en même temps...
Et au risque de se répéter, qu'est-ce qu'il est bon, Pio Barba,
voilà. Il faut quand même le dire. Il tient le film.
Céline Sallette aussi. Ouais. Désolé, on l'a déjà dit pour d'autres films, mais ils sont bons, là.
Il est excellent. Et donc, voilà, il y a ces moments d'envolée, comme ça, cette séquence nocturne où, tout d'un coup, on a ces couples, ce couple qui se reforme, évidemment, avec cette espèce d'interdit qui fait tout le sel d'un amour un peu... l'amour tabou, on n'a pas le droit, et pourtant on le fait. Ce qui rend d'autant plus émouvant la façon dont il se retrouve. Moi, c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup plu. Et puis, il y a cette métaphore étonnante, à un moment donné, prononcée par un juge, l'idée que finalement, un cheveu, c'est comme le tronc d'un arbre, ça garde tout en mémoire. Ouais. Ouh, et là, vous vous dites, ok, vous prenez un cheveu et finalement, on peut tout savoir de votre vie. Ce que vous fumez, ce que vous buvez, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais aussi d'ailleurs. Et vous vous dites qu'en fait...
Si on a retrouvé les traces de la drogue, voilà, par mégarde ou par... c'était volontaire, mais c'est incroyable.
Et ça, c'est vrai
c'est un film contemporain.
Complètement dans un film contemporain et tout d'un coup, on bascule dans autre chose. En plus, la vie d'une petite fille est en jeu à un moment donné dans le film. Donc oui, on se dit qu'après, on est dans un thriller, il y a une énigme et puis ce suspense, cette musique aussi. Il faut remarquer que la musique est extrêmement bien choisie, elle est parcimonieuse, mais quand elle y est, elle y est. Là, on sent que les leçons hitchcockiennes ont été retenues. Moi, je vois par exemple cette musique de la fin avec ce montage saccadé qui est extraordinaire, qui nous fait entendre un roulement de tambour avec en dessous des orgues qui en fait impulsent l'idée du sacré et de la façon dont on brise le sacré. Cette musique-là m'accompagne et je me suis dit waouh, ça c'est bien vu, c'est juste.
Voilà,
et je vous remercie.
Et puis cette question sous-jacente dans votre film, est-ce que l'amour est une drogue comme une autre? Parce que on a l'impression qu'elle est amoureuse de son mec pour des raisons qu'elle ne peut même plus expliquer, parce qu'il met en péril sa famille et ses deux filles.
C'est vrai, mais moi je pense que la pulsion amoureuse peut être extrêmement puissante et effectivement agir comme une drogue. Et d'ailleurs, pendant tout le film, je disais aux comédiens que on allait en filigrane parler de manque partout. Lui, il est en manque, et elle entre en manque aussi. Il y a le manque de la peau, il y a le manque du contact de l'autre, il y a comme ça quelque chose qu'elle n'arrive pas à retenir. Et je trouve que la pulsion où qu'elle se place m'intéresse à filmer.
Audrey Diwan, vous êtes arrivée au cinéma par l'écriture. Hein. Je rappelle un peu votre parcours. Vous êtes née en 1980, vous êtes d'origine libanaise, mais vous avez commencé d'abord à écrire des enquêtes pour des journaux, puis des livres, puis vous avez été scénariste. Donc l'écriture.
Sous toutes ses formes un peu.
Sous toutes ses formes. Ça a été quoi le déclic pour passer à la réalisation?
C'est la longévité, la pérennité du sujet dans ma tête. En fait, la rencontre avec cette femme date de 2014. Et quelques années plus tard, d'abord je demandais encore de ses nouvelles. Et ensuite, je sentais que ça résonnait toujours aussi fortement en moi. Et je pense que c'est là qu'on sent une évidence, en fait. Je n'avais pas envie de le partager non plus, ce sujet, alors que j'adore écrire pour d'autres. Mais je sais pas, celui-là, il était à moi.
Culturel. Toufik Hakem.
Avec ce matin Audrey Diwan pour la sortie de son premier long métrage Mais vous êtes fou, et en compagnie d'Olivier Delcroix du Figaro Scope. On ne voit pas Notre-Dame dans votre film, et pourtant c'est tourné à Paris, pas très loin.
Vraiment pas loin. On a toute une déambulation à Saint-Michel. On aurait pu voir Notre-Dame. C'est tellement étrange de prononcer cette phrase. D'abord parce que j'ai le sentiment d'en parler comme si elle avait totalement disparu. Et parce que je pense qu'on est tous un peu suspendus à ce suspense. Enfin, moi, j'ai entendu que les fondations, les voûtes, en tout cas, menaçaient encore de s'effondrer. Enfin, qu'il y avait des inquiétudes.
Alors, le numéro spécial du Figaro Scope sort aujourd'hui. Et c'est un spécial Notre-Dame, Olivier Delcroix.
Oui, bien sûr. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on s'attendait pas du tout à tout changer, à tout casser. On a effectivement consacré un dossier spécial à Notre-Dame, parce que oui, voilà, c'est le cœur de Paris, c'est le point zéro d'où tout part, toutes les autoroutes, toutes les routes françaises partent de Notre-Dame. On a vu ces images, elles ont résonné pendant toute la semaine, et du coup on a eu envie, forcément, parce qu'on est le Figaroscope, parce que c'est notre ADN, parce que Paris c'est aussi ce qui nous fait vivre, on a demandé à tout un tas de gens, et puis on s'est dit, bon voilà, Paris au secours de Notre-Dame. Dans notre dossier, on a listé toutes les actions des Parisiens, des habitants de l'île de la Cité, de ceux de l'île Saint-Louis, toutes les actions entreprises, toutes les initiatives pour aider, pour sauver Notre-Dame. Donc il y a évidemment des libraires qui ont lancé des appels, des restaurateurs, des galeristes, des grands chefs aussi, la maison de Victor Hugo qui se mobilise, voilà. Et puis on s'est demandé aussi, finalement, que va devenir la maîtrise de Notre-Dame, où vont se produire les organistes, voilà. Enfin, en tout cas, on a demandé aussi à des dessinateurs, parce que j'ai une tendresse profonde pour les dessinateurs de parisiens et de bandes dessinées comme les artistes contemporains, et certains nous ont offert des dessins inédits qu'on a mis en scène et qui sont assez splendides. Je peux parler de François Bouc, je peux parler de Jean-Charles Castelbajac aussi, voilà. Et puis l'hommage, on a l'hommage d'un grand amoureux de Paris, hein, qui est un habitué du Scope, qui s'appelle Nicolas Destiengorff, qui est l'auteur du Dictionnaire amoureux de Paris et qui nous a raconté ça.
Et puis il y a aussi les photos d'hier et d'aujourd'hui qui ont immortalisé Notre-Dame, Doisneau, Cartier-Bresson.
Tout à fait. C'est effectivement une sélection que Valérie Duponchel a faite de manière très intelligente, avec beaucoup de cœur, et son texte est assez sensible. Et voilà, effectivement, en voyant ces quelques photos, on se dit c'est pas possible. Mais le phénix, Notre-Dame est toujours là, est toujours debout, et c'est ce qui aussi est important. Elle renaît de ses cendres, et visiblement elle va renaître vite.
Et Notre-Dame, c'est vraiment Notre-Dame à tous, grâce à Victor Hugo, hein, qui l'a rendu au peuple, à tous les habitants de Paris, à tous ceux qui et celles qui passent à Paris et qui aiment cette ville. C'est la musique du film de Jean Delannoy en 1956, Notre-Dame de Paris. Vous l'avez sans doute vu, André Diwan, Lionel Croix.
Oui, oui. Bah,
je crois Gina Lollobrigida.
Ah, Gina Lollobrigida.
Anthony Quinn. Non, mais le fait qu'il y ait un comédien américain puis une actrice italienne, ça rappelle à quel point ce bâtiment, cette bâtisse, cette cathédrale appartient à tout le monde. C'était vraiment un bien universel et c'est un des plus beaux films d'ailleurs.
On l'a revu là récemment à la télévision et j'ai vu à quel point il était encore tout à fait regardable. Enfin, même moi, je me suis complètement laissé embarquer alors que j'avais autre chose à faire. Et Frollo, cette cathédrale qui est traitée en fait à la manière d'un personnage vivant. Notre-Dame est vivante et Delannoy, je pense, a eu en tout cas ça se sent encore maintenant quand un spectateur le revoit, il a eu le désir de la rendre, de l'anthropomorphiser et c'est assez fantastique, ces gargouilles qu'il filme, c'est très très fort et c'est vrai qu'il y a peu de films comme ça qui mettent en valeur un bâtiment en l'humanisant de manière aussi évidente, aussi intime.
Mais c'était quand même un bâtiment qui avait plein de visages en fait, donc qui avait en lui-même quelque chose de profondément cinématographique. Je veux dire, la gargouille, c'est une figure est légendaire, donc on rentre dans Notre-Dame, il y a mille histoires.
Comment vous avez réagi au début, quand vous avez appris le sinistre, Audrey Diwan?
Alors écoutez, il se passe quelque chose d'étrange, mais à chaque fois qu'un drame se produit dans ma ville, et je suis profondément parisienne, je n'y suis pas. Donc là, nous étions à Strasbourg avec l'équipe du film, et il y a toujours un moment un peu... J'avais l'impression de ne pas pouvoir communier avec le reste des Parisiens, c'était assez étrange comme sensation. Moi, je suis d'une culture libanaise maronite, et avec mon père, j'ai grandi dans les églises, donc j'ai un lien assez fort avec la religion, et j'ai quand même le sentiment fort de ce lieu de culte. Enfin, vous voyez, qu'il y a quand même, il y a quand même un rapport à l'esprit, à la foi. Et en fait, je n'arrive pas du tout à réaliser. Pour vous dire la vérité, je n'y suis pas allée encore. Et j'ai un peu de mal à me figurer cette disparition. Quand même, il y a une disparition...
La flèche.
La disparition de la flèche, quand je l'ai vue sur... On a vu ça à travers des écrans de téléphone. Moi, je suis en train de vendre un film et j'avais l'impression qu'on était dans une pure fiction, que cette chose-là ne pouvait pas advenir.
C'est un peu de la science-fiction, ouais, c'est vrai. Tout d'un coup, on voit ces images, on se croirait revenu... moi, j'ai eu la sensation de revivre les Twin Towers avec cette espèce de... Non, c'est pas possible, c'est en place, cette fois-ci, c'est chez moi, quoi. Cette fois-ci, c'est à 500 mètres. C'est terrible.
Mais vous ne trouvez pas qu'on est abreuvé d'images 3D, de reconstitution, de catastrophes créées artificiellement? Tant et si bien que quand on voit ça et que c'est réel, moi, je mets un temps à me projeter et à me dire, et à vous, mon esprit refuse de croire. C'est étrange.
Depuis, l'émotion est très forte, mais en tout cas, j'ai été très très sensible depuis cette affaire à tous ces témoignages des gens qui viennent des pays qui ont été détruits, que ce soit Palmyre, que ce soit Alep, et vous-même qui êtes d'origine libanaise, vous devez vivre avec ce sentiment quand une bâtisse, quand une ville millénaire s'effondre sous nos yeux.
Là où j'ai tort, c'est-à-dire que moi je l'ai associé dans mon esprit, parce que certainement j'y suis allée enfant et je l'ai associé à la religion, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est absolument ailleurs que ça se joue. Enfin, que cette émotion collective, d'ailleurs qu'on aimerait voir surgir un peu plus fréquemment, naît essentiellement de drames qui réunissent. Enfin, moi je suis toujours un peu sidérée de réaliser à quel point on se sent tous pris dans une émotion commune à l'endroit et au moment du drame, alors qu'on aimerait que cette communion s'effectue ailleurs et autrement aussi, quoi. Mais surtout, c'est comme un sentiment de dépossession. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est sûr d'avoir pour toujours. Et soudain, combien de personnes j'ai entendu dire « je n'ai pas emmené mes enfants voir Notre-Dame » avant. C'est drôle. Comme si c'était un acquis et qu'on ne pouvait pas nous retirer ça.
On revient au manque, à la notion de manque. C'est vrai que mes revenus en mémoire je me suis baladé dans Notre-Dame à plusieurs reprises. Malgré tout, la spiritualité est là, hein, quand on se balade dans Notre-Dame, quand on assiste à un concert à Notre-Dame.
Mais
quand
on entend les orgues, peut-être, non ?
Oui, mais il y a une élévation spirituelle, il y a quand même une sorte de foi qui se dit, qui se matérialise.
Mais, ouais, mais qui transcende les religions.
Totalement. Oui, ah, totalement. Oui, oui. Mais c'est l'envie de croire en quelque chose. Cette espèce de chose qui tout d'un coup se voilà se on voit plus haut. On sait pas quasiment une sensation liée au corps astral. On se détache de nos enveloppes corporelles. Et c'est vrai que c'est souvent ça que j'ai vécu quand je me suis baladé à Notre-Dame. Et c'est pour ça aussi, je pense, que quand on a assisté à ça, quand on a vu ce départ de feu, quand on a vu l'incendie se propager, on n'a pas pu y croire. Et c'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Notre-Dame. Mmh. Parce qu'il y a une féminité, il y a une entité comme ça qui est très protectrice, très maternante peut-être. Et c'est tout d'un coup comme si elle disparaissait. Et,
mais il y a l'idée un peu consternante de la beauté détruite, en fait. Où ça se situe.
C'est vrai.
Ouais. Et où que ça se passe, il y a quand même une peine infinie à voir la beauté tomber en cendres. C'est impossible de rester froid face à ce genre de spectacle, non?
Oui, non, mais l'idée de Notre-Dame debout, moi, c'est quelque chose qui me tient. C'est comme ça que je me lève le matin. C'est pour ça que je voulais faire ce numéro. J'ai déjà envie de la voir renaître. Cette espèce de gang immatérielle et collective, on a été tout d'un coup en deuil. Il y a des gens que j'ai vus, effectivement, quand je m'en suis baladé pas loin après le drame, qui se mettaient à fondre en larmes dans la rue. Le matin, les larmes montaient, et alors qu'en fait, c'est juste un bâtiment. Et pourtant, il nous émeut. Symbole. Ben voilà, c'est un symbole, et c'est pas n'importe lequel.
Au pied des tours de Notre-Dame, la Seine coule entre les quais. Ne reviendras-tu donc jamais? Voici le charmant mois de mai. Dans le jardin du Luxembourg, les feuilles tombent par centaines, comme ils sont loin, tous les beaux jours. Et moi je cours la prétentaine, parmi les ombres incertaines, qui me rappellent nos amours. Au pied des tours de Notre-Dame, la Seine coule entre les quais. Ah, le guet, le joli muguet, qui n'a pas son petit bouquet.
Merci Olivier Delcroix, merci.
Merci à vous.
Audrey Diwan, je rappelle que votre film Mais vous êtes fou sort aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut trouver ce numéro spécial Sauver Notre-Dame du Figaroscope. On se retrouve demain. Bonne journée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr. Chaque jour à 9h05, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin.
En ce mois d'avril, pendant lequel la Fédération française de football fête le centenaire de sa création et à quelques semaines de la Coupe du monde du foot féminin qui se tiendra en France, la fabrique de l'histoire revient sur l'histoire de ce sport. Histoire des footballeurs, mais aussi des footballeuses, histoire des supporters, histoire des styles de jeu. Quatre émissions de la fabrique qui dribblent, passent et on l'espère qui marquent.
La fabrique de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous.
Trois jours après les attentats au Sri Lanka, l'enquête avance. 40 personnes ont été arrêtées. Les autorités ont identifié un mouvement islamiste local, a priori à l'origine de ces attaques. Et hier soir, le groupe État islamique a revendiqué la série d'attentats. On fait le point dans ce journal. Nous irons aussi en Algérie, où la pression s'accentue sur les grands patrons du clan Bouteflika. Mais du côté de la presse et des manifestants, on ne croit qu'à moitié au plan de bataille anticorruption. Eux vont devoir répondre de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et complices. Les époux Fillon sont renvoyés en correctionnel. Mais avant de développer ses titres, cette première dans le monde du football français, dimanche, une femme va arbitrer un match de Ligue 1. Pour la rencontre Amiens-Strasbourg, le sifflet sera autour du cou de Stéphanie Frappard. Son portrait signé Cédric Guillou.
Stéphanie Frappard s'est intéressée très tôt à l'arbitrage, dès l'âge de 13 ans, dans son district du Val-d'Oise.
J'ai joué au foot à l'âge de 10 ans, et après, bon, j'ai démarré l'arbitrage en voulant apprendre les règles. Quand on enfile le costume et qu'on se prend au jeu, et ben voilà, je suis devenue passionnée, et voilà.
Aujourd'hui âgée de 35 ans, Stéphanie Frappard est devenue la vitrine de l'arbitrage féminin français. Elle a été, en août 2014, la première femme arbitre à diriger une rencontre de Ligue 2 chez les hommes. Elle compte aussi une solide expérience internationale, Coupe du Monde 2015 au Canada, Jeux Olympiques 2016 au Brésil, Championnat d'Europe 2017 aux Pays-Bas ou encore la dernière Coupe du Monde des U20 en Bretagne où elle a même dirigé la finale. Tout est allé très vite pour elle.
Forcément, on n'y croit pas au départ. Quand on est arbitre, on prend les matchs un par un et on sait très bien que la pyramide, elle peut s'écrouler avec une mauvaise décision. Donc voilà, on est dans la recherche de l'exigence au quotidien.
Semi-professionnelle, Stéphanie Frappard touche un salaire fixe mensuel et des indemnités de match. Mais elle travaille toujours à côté, à la Fédération Sportive du Travail, trois jours par semaine.
Cédric Guillou. Dans l'actualité, ce matin, ce bilan toujours plus lourd au Sri Lanka. 359 morts et encore des centaines de blessés. Tard hier soir, le groupe État islamique a revendiqué les attentats de dimanche dans des églises et des hôtels. Et la traque se poursuit pour neutraliser cette menace terroriste qui continue de planer sur le pays, Antoine Guinard.
Plusieurs militants armés munis d'explosifs pourraient encore être opérationnels dans le pays. C'est ce qu'a déclaré mardi le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremasinghe, alors que le déroulement des attentats de dimanche se précise, tout comme le profil de ses auteurs. Le Premier ministre a également révélé qu'une attaque sur un quatrième hôtel de Colombo avait été déjouée dimanche. Des images de caméras de surveillance diffusées sur Internet montrent un kamikaze présumé muni d'un sac à dos se diriger vers l'église Saint-Sébastien de Négombo, où s'est produit un des attentats les plus meurtriers. Ranil Wickremasinghe a aussi déclaré que plusieurs des auteurs des attentats étaient revenus de l'étranger, sous-entendu de pays touchés par l'islamisme radical, dont peut-être la Syrie. Le FBI américain s'est également joint à l'enquête. Alors que le gouvernement sri-lankais est sous pression, il est fortement critiqué depuis dimanche pour n'avoir pas agi plus tôt face à la menace islamiste dans le pays, ce malgré sa connaissance depuis au moins 2 ans des groupuscules sri-lankais impliqués dans ces attentats et de leurs motivations.
Antoine Guinard à Colombo pour France Culture. Le grand ménage en Algérie, le patron du géant national des hydrocarbures a été limogé hier. Un peu plus tôt, la première fortune du pays a été placée en détention provisoire. Et le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah le confirme. Il a demandé à la justice d'aller plus vite dans les affaires de corruption. À Alger pour France Culture, Leïla Berato.
C'est l'une des revendications des manifestants, lutter contre la corruption. Dans les cortèges qui défilent depuis le 22 février, un exemple est récurrent, les jeunes sans piston ont du mal à trouver un emploi. D'autres pointent du doigt les amitiés au sommet de l'État qui permettent aux proches des responsables de faire main basse sur les marchés publics. Mais le phénomène est beaucoup plus globalisé. Selon Transparency International, 60 milliards de dollars ont été détournés en Algérie ces 15 dernières années. Alors que Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir, trois grandes affaires de corruption ont secoué le pays, celle liée à Abdelmoumen Khalifa, celle de l'autoroute Est-Ouest et celle de la Sonatrach. Les autorités ont bien annoncé un plan de bataille contre la corruption en s'alignant sur les mesures préconisées par les organisations internationales. Pourtant, les militants affirment qu'il n'y a aucune volonté politique de lutter contre la corruption et qu'au contraire, les lanceurs d'alerte ont systématiquement des ennuis avec la justice. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a affirmé hier qu'il demandait l'accélération des procédures judiciaires en cours dans des affaires de corruption, affirmant que cela rassurait le peuple. En 3 semaines, Ali Haddad, les frères Kouninef et Issa Drebrab ont été arrêtés et incarcérés. Mais la presse est presque unanime. Ces mesures visent à régler des comptes plus qu'à lutter en profondeur
contre la corruption.
Les Laberato. Prison ferme pour deux figures d'Occupy à Hong Kong. Ce mouvement pro-démocratie à l'origine de manifestations monstres à l'automne 2014. Reconnus coupables de conspiration, ils sont condamnés ce matin à 16 mois d'emprisonnement. Kim Jong-un est dans son train privé, le dirigeant nord-coréen, en chemin pour la Sibérie pour son premier sommet avec le président russe Vladimir Poutine.
C'est la deuxième affaire Fillon. Il y a deux affaires Fillon. Il y a l'affaire dont tout le monde parle.
Un son qu'on va entendre dans quelques instants, puisque un procès se profile pour le couple Fillon. Les juges décident de renvoyer l'ancien candidat à la présidentielle et son épouse en correctionnel. François Fillon sera notamment jugé pour détournement de fonds publics et sa femme pour complicité dans l'affaire des emplois fictifs dont elle aurait bénéficié. La suite d'un dossier déjà riche en rebondissements, rappelle Hervé Léman. L'avocat et ancien juge d'instruction a écrit le procès Fillon aux éditions du Cerf.
C'est la deuxième affaire Fillon. Il y a deux affaires Fillon. Il y a l'affaire dont tout le monde parle, qui est la question de savoir si Mme Fillon travaillait réellement ou pas. Et ça, c'est les tribunaux qui le diront à la fin de la procédure. Il y a une autre affaire Fillon. C'est comment la justice a fonctionné dans cette affaire, en pleine élection présidentielle, avec quelques magistrats qui ont décidé, par l'accélération de la procédure, de mettre hors d'état de gagner le candidat favori de l'opposition. C'est une vraie question dans une démocratie, ça. Pourquoi se précipiter pour mettre en examen François Fillon à l'époque? Il risque pas de s'enfuir en Amérique du Sud. Il n'y a pas de risque de cet ordre. On choisit de le mettre en examen parce que nécessairement, on sait que ça va l'empêcher de gagner l'élection présidentielle. Et la question, c'est, est-ce que c'est le rôle de la justice de dire ce candidat-là, je vais le disqualifier pour l'élection présidentielle? Moi, je ne le pense pas. Un juge d'instruction est là pour instruire. Il n'est pas là pour désinguer un candidat à l'élection présidentielle.
L'avocat Hervé Léman avec Stanislas Vazak. Son dessin fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Xavier Gors, dessinateur de presse, a laissé aller son crayon sur l'affaire Gaspard Glantz, ce journaliste indépendant arrêté pendant la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris. Un pingouin demande à un autre « tu es journaliste ?» et l'autre de lui répondre « oui, j'ai ma facture de GoPro » du nom de ses petites caméras. Question sous-jacente, peut-on être journaliste sans carte de presse ? Xavier Gors s'explique.
Mon but, c'est pas de décréter qui est journaliste et qui n'est pas, c'est de poser une question en utilisant l'humour, qui est mon matériau, et de poser une question en pointant un angle particulier. J'ai lu un certain nombre d'articles et de témoignages autour de son activité. Manifestement, il a l'air quand même très impliqué dans les mouvements gauchistes. La discussion qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a la limite entre l'engagement, le point de vue. C'est vrai qu'un journaliste a forcément plus ou moins un point de vue sur une actualité. Quand on cadre quelque chose, c'est pas innocent, donc on a un point de vue. Ça, c'est pas critiquable. Après, c'est de savoir jusqu'où va ce point de vue et quelle est la limite entre l'activisme, la prise de participation à des événements et le témoignage de ces événements. Le dessin de presse, pour moi, en tout cas, c'est l'art d'aller questionner des choses qui posent problème et effectivement de le traiter sous l'angle de l'humour. Donc c'est plus une question qu'une affirmation.
Le dessinateur de presse Xavier Gors avec Manon Clavery. Après des mois d'incertitude, c'est un peu l'audience de la dernière chance pour Ascoval. Le tribunal de Strasbourg examine en principe une dernière fois ce matin les projets des potentiels repreneurs de la scierie de Saint-Saulve dans le Nord. Les 270 salariés croisent les doigts. Dans un mois, il faudra voter pour les élections européennes. Mais bien malin, celui qui peut dès aujourd'hui parler des programmes. La campagne n'a pas encore vraiment commencé et le désintérêt présumé des Français pour ce scrutin n'est pas la seule raison, souligne le politologue Jérôme Sainte-Marie.
Ce manque d'appétit des Français pour la campagne des européennes correspond à une règle assez générale pour ce type d'élection. Parfois, les campagnes pour les européennes durent 2 ou 3 semaines, comme en 1999. On a également un autre phénomène qui joue cette fois-ci, c'est que ce conflit autour des Gilets jaunes et de la politique sociale du gouvernement, ce conflit n'est pas relié dans l'esprit de l'opinion à la question européenne. Il y a peut-être aussi une troisième raison, c'est que nous avons désormais un clivage sur la question européenne entre les partis politiques qui est beaucoup moins net qu'auparavant. Depuis l'élection présidentielle, les partis comme le Rassemblement national, voire même comme Debout la France, ont beaucoup nuancé leurs attaques contre l'Europe et notamment contre l'euro. De l'autre côté, vous avez également chez les partis les plus européens une approche de l'Europe qui fait beaucoup plus de part à la critique par rapport aux délocalisations, par exemple, et ou par rapport à l'immigration pour la droite. Et donc, si vous voulez, les Français sont pas pris dans un clivage, dans une opposition aussi tranchée et aussi mobilisatrice qu'auparavant.
Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de Polling Vox, joint par Guillaume Riza pour France Culture. Le temps presse à Notre-Dame. Les travaux de bâchage de la cathédrale ont débuté une semaine après l'incendie et il y a urgence. La pluie est attendue aujourd'hui à Paris. De la pluie, du vent ou des nuages pour tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on attend également des orages en Alsace, en Île-de-France et dans le centre-Val de Loire. Côté thermomètre, ça baisse. Les températures tournent autour des 15 degrés dans l'après-midi. Et à 7h20 sur France Culture, le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
On en parlait dans le journal, à un mois des élections européennes, la campagne peine à démarrer.
Eh oui, en cause notamment le grand débat national dont l'issue se fait attendre et l'incendie de Notre-Dame qui a amené certains partis à annuler les meetings. Mais il y a plus, Le Monde cite un sondage IFOP du 19 avril selon lequel 23% seulement des électeurs se disent très intéressés par la campagne, 34% se disent assez intéressés, mais les sondeurs anticipent une abstention en hausse. 59% n'iraient pas voter contre 56% en 2014. Encéphalogramme plat, commente Brice Couturier à Ipsos en observant les courbes. La campagne ne démarre pas, les réunions publiques ne font pas recette, les Français semblent avoir la tête ailleurs. Il est vrai que les Européennes n'ont jamais été des plus mobilisatrices, sans enjeu de pouvoir immédiat, mais le cru 2019 promettait davantage dans un contexte politique profondément renouvelé, l'idée européenne faisant son chemin dans les consciences. L'actualité étant plutôt fournie, notamment avec le feuilleton du Brexit. Certains accusent Macron d'avoir fait traîner le grand débat pour sauter au-dessus des Européennes et confisquer le débat public. Brice Teinturier rappelle que la percée de Daniel Cohn-Bendit et des Verts en 2009 a eu lieu 4 à 5 jours avant le scrutin. Et le parti présidentiel s'apprête à mener une campagne blitzkrieg pour mobiliser les électeurs dans la dernière ligne droite. On peut estimer que c'est dommage, tant les questions européennes sont au cœur de nos destinées individuelles et collectives. La France est un drôle de pays où l'on parle d'Europe au moment des élections nationales, mais si peu quand les élections européennes approchent, observe Bertille Bayard dans le Figaro, en insistant sur la monnaie unique et le rôle de la BCE absente de la campagne, serait-elle entrée dans les mœurs? L'euro avec une cote de popularité à 74% dans la zone concernée et à 59% en France, semble être devenu pour nombre d'Européens un gage de stabilité dans un monde par ailleurs si chaotique. La prudence de l'épargnant l'emporte sur les aigreurs nés des devoirs de la solidarité monétaire. Quant au rôle de la BCE, la journaliste rappelle que la France paie une quinzaine de milliards d'euros de moins chaque année qu'en 2011 pour rembourser une dette qui dans le même temps a augmenté de 35% en valeur. Et combien de mètres carrés en plus les Français ont-ils obtenu grâce à des crédits immobiliers dont les taux ont fondu? C'est juste, admettent David Kaila et Coralie Delhomme dans 10 questions plus une sur l'Union européenne, publié chez Michelon. Mais la médaille a un revers. En privilégiant les épargnants avec une inflation contenue, on néglige les intérêts des emprunteurs, des actifs, des entreprises ou des États. Car là où l'inflation est égale au taux d'intérêt directeur arrêté, le coût réel de l'emprunt est pratiquement nul. Or, les pays à forte croissance ont en général des taux d'inflation plus élevés que les pays en crise. Une politique monétaire commune a donc tendance à favoriser la croissance des pays les plus dynamiques et à plomber celles des pays déjà en crise. Peut-être qu'au fond, la vraie question est une fois de plus celle du sens. Pour Thomas Serrier, Valérie Rozou sur le site AOC, c'est l'incapacité à faire émerger un « nous » à l'échelle du continent qui explique la désaffection à l'égard de l'aventure européenne. Pourtant, le sentiment d'avoir quelque chose en commun demeure bien réel. Inversement, le national fait depuis quelque temps déjà son grand retour, alors même que la densité des imbrications n'a jamais été aussi apparente. Paradoxe constitutif, l'histoire est mobilisée par tous les courants qui s'en mêlent. C'est l'Europe atlantique qui semble devenue myope sur ses attaches avec le continent. L'Europe bien portante du Nord qui fait la leçon d'économie aux cigales méditerranéennes. L'Europe occidentale toujours encline au paternalisme face à l'autre Europe du centre et de l'Est. C'est l'Europe des racines chrétiennes, sous-entendu non musulmane, qui marginalise du même coup la contribution de toutes les minorités minorité religieuse ou athée à son histoire pluriséculaire. Mais les auteurs soulignent que si le cadre premier de l'écriture de l'histoire, comme de la formation des mémoires, demeure pour une très large part le cadre national, aucune histoire nationale, aucune mémoire collective n'existe en autarcie. Et c'est particulièrement vrai en Europe continentale, même les débats d'idées restent très nationaux, les cultures sont très cloisonnées, regrette Olivier Guèze dans les pages idées de Libération, lui qui arpentait les pays d'Europe de l'Est. L'Europe traîne tant de fantômes qu'elle n'a rien voulu nommer, elle n'a pas voulu fâcher qui que ce soit, on dirait qu'elle repose sur du vide. Pourtant, elle a de la chair, elle est même un continent incroyablement charnel, ses paysages, sa cuisine, son patrimoine. Et l'écrivain de conclure, les Européens rêvaient de sortir de l'histoire, de devenir une grosse Suisse, ils y ont cru la décennie qui a suivi la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, l'histoire est de retour. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Téhéran sous pression maximale.
Et oui, ça rime, ou presque en tout cas, avec Donald Trump qui a annoncé lundi la fin des dérogations pour 8 pays qui achetaient encore du pétrole iranien. Désormais, il risque des sanctions américaines. Presque un an donc après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire, Trump poursuit la stratégie de la pression maximale, comme il l'a appelé, en espérant faire plier le régime. Stratégie appliquée à la Corée du Nord, au Venezuela, est-elle transposable à l'Iran ? On voit ça avec vous, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être venu ce matin. Vous êtes professeur d'économie internationale à la Novantia Business School et chercheur associé à l'IRIS, auteur d'Iran, La Révolution Invisible. Alors là, ces sanctions, donc applicables à partir du 2 mai, Trump entend porter à zéro les exportations, hein, je le cite. Il y avait déjà eu la sortie de l'accord et le rétablissement le 7 août dernier d'importantes limitations commerciales. Est-ce qu'on peut dire désormais que ce sont les plus grandes pressions économiques jamais exercées sur l'Iran aujourd'hui ?
Ah oui, tout à fait. Même avant ça, hein, je pense que j'avais regardé récemment dans l'histoire économique, même on ferait voir, même à long terme, est-ce qu'on a eu une telle pression économique d'une telle ampleur ? Parce que c'est quand même un pays de 80 millions d'habitants. Et l'objectif, en gros, bon, excusez-moi, mais pour faire simple, c'est de les affamer. C'est de les affamer pour qu'ils sortent dans la rue et qu'ils conduisent éventuellement un changement de régime ou qu'ils forcent le gouvernement iranien à accepter les 12 points de négociation.
Qui avait été annoncé
par Pompeo. Donc effectivement, c'est là, de ce côté-là, Trump a raison. Une telle pression appliquée à tellement de personnes, on a rarement vu ça dans l'histoire.
Alors justement, qu'on reste sur cette stratégie américaine, donc déjà des sanctions sur des activités commerciales l'année dernière, il y avait l'aviation, l'automobile, désormais donc des sanctions sur les importations de pétrole iranien qui représentent 40% je crois des recettes financières du régime, mais déjà aussi beaucoup de multiplication des protestations internationales de la part des acheteurs du pétrole, la Chine notamment, et l'Inde ou la Turquie, est-ce que c'est pas un trop gros morceau pour être décidé unilatéralement ces sanctions-là ?
Alors ça c'est le problème de la politique américaine depuis le début. Ce qui est aussi, si vous voulez, là je suis presque, c'est presque un cas d'école. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de pays qui se sentent concernés, parce que bon, déjà il y a le pourquoi ils font ça. Alors, vous voyez, les États-Unis entre guillemets s'assoient sur le droit international puisque c'est un accord, si vous voulez, signé par 6 pays, plus l'Iran, validé par une résolution des Nations Unies, dont ils sortent sans raison. Donc ils sont en dehors du droit international. Ils appliquent une politique extraterritoriale, comme vous l'avez dit. Ils appliquent. C'est ça qui est intéressant, c'est que les États-Unis, du fait de leurs propres sanctions, ne commercent plus avec l'Iran. Donc il y avait une remarque d'un expert, là, Kenneth Katzman, hier, il disait que c'est pas un embargo. C'est des sanctions pour que les autres pays appliquent un embargo. Donc il y a un côté extraterritorial qui commence à devenir... C'est comme l'éléphant dans la maison, quoi. C'est tellement énorme. Les États-Unis disent à d'autres pays, bah, nous, on commerce plus avec l'Iran, mais vous non plus, vous n'avez pas le droit. C'est complètement extraordinaire. Et c'est pas nouveau. Là, effectivement, c'est un choc maximum sur l'économie iranienne parce que les exportations de pétrole de l'Iran, c'est quand même 80% des recettes en devises, 40% des recettes de l'État. L'embargo américain décidé depuis novembre 2018 a déjà conduit une baisse de 50%. Des exportations pétrolières iraniennes qui sont passées de 2,3 millions de barils par jour à 1,2 million aujourd'hui, en mars 2019. L'objectif des États-Unis, c'est qu'ils arrivent à zéro, donc c'est de priver l'Iran de 80% de ses recettes en devises et de 40% de ses recettes budgétaires. Et là où c'est énorme aussi, c'est quand on entend Pompeo dire, on comprend bien son discours, avec cet argent, l'Iran finance le Hezbollah et sont des activités en Syrie, mais c'est 40% des recettes de l'État, donc c'est aussi l'argent qui permet de payer les fonctionnaires, de faire tourner l'économie iranienne.
Donc ces sanctions sur le pétrole, elles vous semblent quand même applicables ou non, puisque il y a la question de la compensation justement de la baisse de production. Là, Donald Trump a tweeté, l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP feront plus que compenser la différence de production de pétrole, c'est pas encore gagné.
Oui, alors d'après ce que disent les spécialistes du marché pétrolier, il y a pas mal d'incertitudes parce que ça intervient à un moment où il n'y a pas que le problème de l'Iran. Il y a la Libye où la production pétrolière, du fait de la situation dans le pays, la production pétrolière libyenne a baissé. Après, ce que je viens d'entendre dire, l'Angola est à un point bas en termes de sa production pétrolière. Vous avez un pays comme le Venezuela qui est, bon, dont les exportations ont très, très fortement diminué. Donc, il y a un certain nombre d'incertitudes sur la capacité même des pays comme l'Arabie Saoudite de véritablement compenser la baisse de la production pétrolière iranienne. Et puis, il y a un deuxième problème qui est, quand les États-Unis disent qu'ils vont arriver à zéro, hein, c'est énorme quand même, ils veulent priver l'Iran de toutes ses exportations pétrolières. Bon, la Chine vient de dire non, et la Chine quand même achète la moitié du pétrole iranien. Vous avez également un autre client important, c'est l'Inde. Alors, l'Inde est plus sensible géopolitiquement aux États-Unis que la Chine, mais quand même, l'Inde est contre, hein, cette politique unilatérale américaine. Vous avez également la Turquie, qui vient de dire non, on n'accepte pas le diktat américain.
Oui. Et alors, on va revenir aux conséquences diplomatiques, mais pour ce qui est de l'Iran, vous l'avez déjà un peu évoqué, combien de temps la récession, puisque ça fait déjà 2 années que le pays est en récession, et les pénuries que vous évoquiez, peuvent-elles durer, hein, pour le dire comme ça?
Ah oui, mais de toute façon, si vous voulez, les autorités iraniennes savent bien, si vous voulez, quand on prive un pays, quand on dit, voilà, qu'est-ce que peut faire l'Iran? Imaginez, en France, on prive le gouvernement iranien de, là, je vous dis, c'est les exportations de pétrole, c'est 40% de ses recettes budgétaires, donc elles ont diminué de moitié, donc là, ils ont perdu 20%, un cinquième de leurs recettes budgétaires. Qu'est-ce que peut faire un pays? Donc c'est la crise économique en Iran, c'est la récession, l'inflation atteint 30%. L'idée, très clairement, des autorités iraniennes, c'est faut tenir. Alors l'idée, c'est à mon avis, ils sont en train de mettre en place des programmes pour que les classes les plus pauvres arrivent à tenir le coup. Ils en sont là parce que effectivement, c'est eux qui soufflent de cette accélération de l'inflation. Il y a l'idée aussi de faire un certain nombre de choix budgétaires pour arriver à compenser. Si vous voulez, il y a déjà eu 50% de baisse d'exportation pétrolière. On se dirige vers peut-être, on va passer peut-être de 1,2 million de barils jour à éventuellement. Le scénario catastrophe, ça pourrait être 500 000 barils le jour. Donc, ils peuvent perdre, on va dire, encore plus de 50% de leur recette budgétaire. Donc, là, il y a d'autres possibilités. Par exemple, il y a la politique de revenu universel qui avait été mise en place par Ahmadinejad. Le gouvernement iranien dépense beaucoup, beaucoup d'argent de ces versements liquides à une grande partie des Iraniens. L'idée, ce serait, ils pourraient faire énormément d'économies. Hein, c'était la presse iranienne en discutait, simplement en orientant ce revenu universel vers les plus pauvres, et donc il pourrait éventuellement compenser cette baisse des recettes pétrolières qui s'annonce.
Oui, avec cette nécessité qu'il faut répondre en ce moment à des situations, plutôt une situation de crise, les inondations, justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui va précipiter, ou infléchir les décisions du régime? Qu'est-ce que ça peut changer?
Alors, si vous voulez, le gouvernement iranien, il a bien compris, il doit faire attention, c'est qu'effectivement, il y a une situation de crise à laquelle il doit répondre, parce que c'est, pour n'importe quel pays, c'est votre légitimité qui est en jeu. Si vous n'êtes pas capable de répondre à la situation de crise.
200 000 personnes qui ont fui leurs habitations.
Il y a eu près de 76
morts, ouais, au 15 avril. Ouais.
Donc c'est une catastrophe, c'est jamais arrivé en Iran depuis longtemps. Donc il doit gérer cette situation de crise, etc. D'un autre côté, on vient d'en parler, il doit faire attention à pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pas dépenser tout l'argent d'un coup, pour se préparer à tenir. Parce que la grande question, c'est effectivement, faut tenir au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle américaine. C'est pour ça que le guide vient, vous savez, l'Iran a une sorte de fonds de réserve, où ils ont mis les excédents pétroliers. Le guide vient de dire qu'on ne dépense, ce qui est pas évident politiquement, il est de dire on n'utilisera pas cet argent pour aider ceux qui ont des problèmes à cause des inondations, parce que l'idée c'est de garder cet argent pour tenir dans les prochaines périodes.
Bon, alors ça c'est pour le calendrier électoral américain. Il y a également le calendrier électoral iranien 2019, élections législatives, et 2020, élections présidentielles. Comment est-ce que vous verriez les choses, une fois étant posé qu'il y a effectivement aussi l'échéance pour Donald Trump, est-ce que un infléchissement réel, un geste du gouvernement iranien pour dire oui, on va accepter un des points parmi les 12 proposés par les États-Unis est possible, ou alors les tensions qui dégénèrent et le risque du blocage, encore une fois, du détroit d'Ormuz, hein, c'était déjà arrivé.
Alors,
par où transite le pétrole?
Donc, ça fait 30 ans que je travaille sur l'Iran, j'évite toujours de faire des prévisions comme ça sur qu'est-ce que va faire le régime iranien. Mais ce qu'on sent bien, si vous voulez, c'est là où peut-être on peut aussi critiquer la stratégie américaine, c'est la façon dont Trump a posé les choses avec ces 12 points qui ont été posés. Si vous voulez, du côté iranien, ils ont le sentiment que c'est une politique pour changer le régime, si vous voulez. Et ils ont le sentiment, ils parlent de guerre économique, ils parlent même de terrorisme économique. Donc je pense que politiquement, c'est impossible, franchement c'est impossible, à mon avis, se tirer une balle dans le pied pour n'importe quel dirigeant iranien de dire actuellement, comme vous dites, on négocie sur un des 12 points. C'est là où effectivement on l'a là. Donc là, à mon avis, l'option la plus probable, c'est que déjà en plus la classe moyenne iranienne, elle est complètement dégoûtée, elle va sans doute pas aller, ceux qui soutiennent les modérés, ils en ont marre, ils voient une situation économique, ils pensent d'abord à tenir le coup pendant les prochains mois, donc ils vont sans doute pas aller voter, donc on aura un taux de participation faible pour répondre à votre question, donc on peut s'attendre à plutôt un coup entre les conservateurs durs ou radicaux qui vont s'allier sans doute et qui vont peut-être rafler la mise à la fois aux législatives, aux présidentielles. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent négocier les clients.
Et autre fiction ou anticipation, en un mot, si le régime, justement, ne plie pas comme le voudrait Donald Trump, que les conservateurs gagnent les élections 2019-2020, est-ce que ça veut dire que l'accord sur le nucléaire, à ce moment-là, risquerait réellement d'être mort ?
Non, parce que pour l'instant, si vous voulez, c'est assez collégial la façon. Donc, on va dire la stratégie du régime iranien, c'est de rester dans l'accord. Parce que là, ce qu'ils ont bien compris, c'est que les Américains veulent qu'ils en sortent. Parce que si vous voulez, là, au moins, ils souffrent beaucoup, mais ils se sentent en position de force. Que c'est pas fréquent où l'Iran dit nous, on respecte le droit international et pas les États-Unis. Mmh. Les États-Unis sont les voyous. Donc là, ils sont assez contents de cette situation. Donc, ils ont bien compris qu'ils ont un avantage. Par contre, et là je suis d'accord avec vous, je pense que ça va dépendre de la situation économique et des équilibres politiques internes. Si un groupe radical qui est opposé, parce qu'il y en a certains qui sont opposés à l'accord depuis longtemps, commence à gagner éventuellement la majorité au Parlement, etc., et a un bon candidat pour les présidentielles, là effectivement, on peut craindre ce type de scénario. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégierai.
Bon, bah, ce sera observé pour 2019-2020, et puis le 2 mai, le rétablissement de ces sanctions sur les pays qui achètent du pétrole iranien. Merci beaucoup Thierry Coville pour vos explications aujourd'hui.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il aimait dynamiter les tabous et a eu plus de vie qu'un chat, son animal totem. Il nous a récemment quittés. Hommage à Tommy Ungerer, à voix nue sur France Culture au fil de 5 entretiens.
Le plus beau champ de bataille que j'ai vraiment vécu enfant, c'était le jour de la libération le 2 février en 1945. Ça tient presque de l'absurde d'ailleurs. La vie, justement, se manifeste et se précise par l'absurde.
Dessins, livres pour la jeunesse, affiches politiques, livres érotiques, cet ogre de papier a tout goûté, tout croqué et se riait des frontières. Tommy Ungerer, l'enfant terrible, c'était en 2012, à Gouenu cette semaine à 20h et sur franceculture.fr. Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire. Élise Andrieux.
Être bouleversé par un paysage sublime, se laisser embraser puis consumer par l'amour, fuir la dure réalité pour se perdre et trouver l'extase.
Je suis l'homme romantique. Je suis né à l'aube des grands régimes démocratiques, dès le XVIIIe siècle en Europe. Je me suis mis en route pour écouter la voix du cœur.
Cette semaine, LSD tente de mettre ses pas dans les grandes foulées enfiévrées du romantisme et vous emmène dans la lande désolée et les grands sentiments.
Quelque chose en nous de romantique ? LSD de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
6h57 sur France Culture, fuir la dure réalité et se perdre pour retrouver les matins de France Culture avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Je ne ferai pas de commentaire. Bonjour Xavier Martinet. Bonjour à toutes et à tous.
Et la réalité, c'est qu'hier, un groupe d'étudiants de Sciences Po Paris a tenté d'empêcher Alain Finkielkraut de donner une conférence.
Oui, c'est une réalité. Alors un collectif jusqu'ici inconnu appelé Sciences Po en lutte, Institut Clément Méric, collectif autoproclamé antiraciste, a tenté donc d'empêcher Alain Finkielkraut de parler au motif qu'il serait profondément réactionnaire. On se demande évidemment de quel droit ces individus décident de priver quelqu'un de la parole, une manière qui, de surcroît, est très éloignée de notre sensibilité moderne. Car ce qui prédomine aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est une forme d'œcuménisme idéologique. Toutes les pensées, toutes, absolument toutes, ont droit de citer, voilà l'une des conséquences de la disparition des gatekeepers, un terme anglais littéralement les gardiens de la porte, autrement dit, ces personnes qui décidaient jadis, dans les médias par exemple, à l'université, qui avait droit à la parole. Avec Internet, il n'y a plus de gatekeeper, un prix Nobel, un ignorant strictement, le même droit à la parole. Mais dans ce contexte-là, toute forme de régulation de la parole, je ne parle même pas de censure, sont tenues comme absolument inacceptable, le principe fondateur est de laisser chacun se faire une opinion, considérant donc, encore une fois, que personne n'a le droit de s'ériger en censeur pour déterminer ce que j'ai le droit d'entendre et ce que je n'ai pas le droit de savoir. Dans ces conditions, l'intervention de ce collectif de petits censeurs n'est pas seulement intempestive, elle témoigne finalement d'une grande condescendance. Elle revient à dire que le public a des facultés de raisonnement si faibles qu'il n'est pas capable de se faire une opinion. Ce public exposé à la pensée d'Alain Finkielkraut ou de qui que ce soit d'autre se rangerait mécaniquement aux arguments de l'orateur. Ou bien, la pensée d'Alain Finkielkraut posséderait une force telle qu'elle contaminerait nécessairement toute personne qui y serait exposée. C'est cela le paradoxe finalement de la censure, penser que l'on est si peu capable de convaincre qu'il faut interdire les arguments contraires aux siens, interdire parce que l'on se sait si peu convaincant. Et dans quelques instants, les matins
de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Avec une célébration dimanche prochain, le 28 avril, marquera le 50e anniversaire de la démission de la présidence de la République du général de Gaulle. 7 présidents et 20 premiers ministres plus tard, que reste-t-il de l'héritage gaulliste ? On s'interrogera à ce sujet en compagnie de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président de la Fondation Respublica. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.